Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, nous allons explorer et nous interroger sur la question du patrimoine et de sa nécessaire préservation. Patrimoine physique, mais aussi humain, des pierres, des monuments, mais encore des souvenirs et des bouts de mémoire que l'on laisse derrière soi lorsque l'on est obligé de partir. Je suis en compagnie de Bruno Favel, qui est responsable au ministère de la Culture et de la Communication, du département des Affaires européennes et international. Vous êtes à la direction générale du patrimoine. Alors ça, ce sont vos fonctions officielles. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Vous êtes aussi un spécialiste de cette organisation de projet. Vous menez des partenariats, vous travaillez avec l'UNESCO, vous travaillez avec des organisations internationales. On y reviendra, mais vous êtes surtout un amateur d'histoire. Et vous-même, porteur d'un récit familial lié à l'arrivée des Arméniens en France. Un exil, donc, thématique qui nous rassemble ce matin. Alors, commençons par votre vie professionnelle. Donc, une direction du patrimoine. Donc, ça veut dire qu'il y a des budgets de l'État français qui sont désignés pour des projets de reconstitution, peut-être, à l'étranger. Qu'en est-il exactement ?
Absolument. Merci pour votre invitation. Depuis André Malraux, avec la Grande Nubiade, le ministère de la Culture s'intéresse à la restauration, la valorisation et la conservation du patrimoine mondial. C'est-à-dire que partout, tous les sites du patrimoine mondial, il y a une expertise proposée par la France au Proche et Moyen-Orient, bien sûr, mais aussi en Asie du Sud-Est, l'emblématique Borobudur en Indonésie dès les années 50, ou encore le site d'Angkor Wat au Cambodge qui, depuis 1992, fait l'objet d'une attention particulière de la France avec le Japon, bien sûr, qui co-préside un comité international pour la valorisation de ces temples. Après l'incendie de Notre-Dame de Paris, on peut dire que qui est un site du patrimoine mondial, je répète, on se trouve confronté à cette obligation de service public qui est justement d'aider les sites du patrimoine mondial en France, mais aussi à l'étranger.
Alors c'est un métier, Bruno Favel, que vous faites avec passion. Vous aimez voyager, vous aimez l'histoire, vous lisez énormément. Comment vous arrivez à continuer à travailler ? Alors c'est une période qui est particulièrement chargée, mais comment vous arrivez à installer une vision à long terme dans votre mission ?
La vision à long terme, c'est d'abord la mise en œuvre de conventions. C'est-à-dire que nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opérations spontanées et pragmatiques. Elles sont spontanées et pragmatiques du fait de l'actualité, malheureusement, les cataclysmes et les conflits. Mais la convention de 1972 de protection du patrimoine mondial, reprise par la loi LCAP de 2016, qui est une loi française, nous permet justement de mettre en œuvre ce type d'opérations et de programmes destinés à la fois à la conservation et à la restauration, mais aussi à la mise en sécurité des populations, c'est-à-dire faire en sorte que les populations et aussi les communautés scientifiques locales puissent se réapproprier leur patrimoine.
Alors expliquez-nous cette vision du patrimoine, c'est-à-dire un patrimoine physique, matériel, des monuments, des pierres, mais un patrimoine humain aussi.
Il y a le patrimoine bien sûr physique, le patrimoine qu'on qualifiera de bâti, il y a le patrimoine enfoui, le patrimoine archéologique, mais il y a le patrimoine subaquatique, patrimoine enfoui sous la mer, mais nous avons aussi le patrimoine culturel immatériel. Par exemple, le patrimoine culturel immatériel des Yézidis, puisque les Yézidis n'ont pas construit beaucoup de monuments. C'est une communauté qui vient d'être persécutée de façon terrifiante pendant les années de 2015 à maintenant. Je crois que énormément de personnes ont été assassinées, massacrées, mutilées et vendues sur les marchés de Mossoul. On parlera de Mossoul tout à l'heure.
Dans le nord de l'Irak.
Dans le nord de l'Irak. Et je dois dire que ce patrimoine culturel immatériel nous préoccupe parce qu'il faut le recueillir, il faut le conserver, il faut le faire vivre. Et le plus important, le transmettre. La transmission le plus important, je pense.
Alors, il y a des institutions avec lesquelles vous collaborez, vous coopérez, pardon, je pense à ALIF. Alors, il faudra nous en dire un petit mot, bien entendu, qui est une fondation plutôt récente. Et je crois qu'il y a un plan de restauration de Mossoul qui a été lancé. Alors, dites-nous quelques mots.
ALIF, qui signifie Alliance Internationale pour la Protection du Patrimoine dans les Zones en Conflit, est au départ une initiative de François Hollande, président précédent, qui souhaitait, avec les Émirats Arabes Unis et un certain nombre de pays, que je ne citerai pas parce que nous n'avons pas le temps, faire en sorte que les sites du patrimoine mondial et les autres sites de la Syrie, mais aussi de l'Irak, du Yémen, du Mali et de la Libye, soient mis en sécurité du fait de leur éradication systématique par des groupes terroristes, que ce soit Daesh, l'ACMI, l'ACMO, ou encore les talibans dans ces régions-là. Alors, c'est un fonds indépendant, qui est installé à Genève, qui est présidé par une personnalité mondiale, Monsieur Kaplan, qui est un esthéticien, amateur d'art, historien d'art, qui préside le fonds, avec une vice-présidente que nous connaissons bien, qui est Bariza Kiari, l'ancienne vice-présidente du Sénat, qui a été mandatée par le président Macron pour représenter la France dans ce fonds. Et il y a un comité scientifique présidé par Jean-Luc Martinez. Vous vous souvenez qu'il y a eu un rapport Martinez qui proposait 50 mesures pour justement faire en sorte qu'il fallait mieux protéger le patrimoine au Proche et Moyen-Orient.
Voilà le président du Louvre.
Absolument.
Voilà, faut-il le préciser. Donc un fonds, de l'argent qui est mis en commun.
70 millions d'euros.
Voilà, donc c'est des fonds qui sont apportés par des États souverains, je crois bien. Et l'idée, en fait, est d'anticiper, alors c'est un peu tragique quand même qu'on en arrive là, c'est-à-dire les destructions futures.
Voilà. C'est ça.
On part du principe que maintenant le patrimoine devient une cible de guerre. On veut effacer la mémoire des peuples vaincus.
C'est cela. Ce fonds doit permettre justement, avec des appels à projets, nous sommes dans le deuxième appel à projet, de permettre à la communauté scientifique mondiale de proposer, avec des équipes, des projets précis. Je rappelle pour nos auditeurs que tout le patrimoine mondial de Syrie et d'Irak est complètement dévasté. C'est-à-dire tous les sites ont été placés sur la liste en urgence du patrimoine mondial. Il n'y a pas un site qui reste debout. C'est-à-dire où les sites ont été totalement éradiqués ou endommagés ou partiellement détruits. Donc c'est une destruction qui remonte. La dernière destruction de ce type, c'est les Mongols. C'est les Mongols au XIIIe siècle. C'est-à-dire que jamais on a vu une destruction pareille dans cette région avec une frénésie et un engouement de ce type. Destruction des monuments, mais destruction des personnes aussi.
Alors vous parlez de l'Irak, je pense.
Oui.
Vous parlez de cette région de Mossoul qui a particulièrement souffert. Quels sont les projets de reconstruction ?
À Mossoul, c'est un lieu important. Mossoul, c'est une ville des routes de la soie. C'est une ville qui a toujours relié l'Orient, l'Occident et l'Extrême-Orient, je dirais même. C'est un lieu de caravane. Il y avait un très beau musée à Mossoul, une université, qui ont été complètement détruites par Daesh. Et je dois dire que ce musée est en train, grâce au Louvre et des fonds d'Alif, et aussi grâce s'intégrant dans une opération voulue par Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, qui s'appelle l'Esprit de Mossoul. Le projet s'appelle Mosaïque et s'intègre dans l'Esprit de Mossoul pour justement redonner une vie aux lieux culturels de Mossoul, avec aussi le recensement des lieux cultuels qui ont été détruits. Il y en a 6 très importants de différentes confessions pour justement faire en sorte que les chrétiens puissent revenir aussi à Mossoul. Vous savez qu'il y a un an et demi, il y a un office qui a été célébré dans Mossoul. Vous avez certainement dû en parler. C'est une première, c'est important. Mossoul était une ville chrétienne très très importante, un carrefour stratégique pour toute la région et j'espère que grâce à ces initiatives prévues par l'UNESCO, Alif, mais aussi d'autres fraternités en Irak et bien d'autres organisations non gouvernementales, on puisse arriver à un retour, je dirais, des chrétiens dans cette ville emblématique.
Et vous, Bruno Favel, en tant que représentant du ministère de la Culture, vous êtes chargé un petit peu de coordonner toutes ces initiatives. Comment vous voyez votre mission ?
Alors nous sommes, dirais-je, dans l'obligation de coordonner cela. Pourquoi ? Parce que la communauté scientifique nous a demandé de l'aide à plusieurs reprises. Au mois de février, à la demande du nouveau ministre, Franck Riester, nous avons réuni la communauté scientifique rue de Valois. C'est une première, ça n'avait jamais été fait. Donc le 14 février, 300 scientifiques ONG ont été réunis pour justement entendre le discours de Barry Zachary et de Valérie Freland, qui est le directeur de l'ALIF, qui est basé à Genève, qui est un Français. Et ça a permis quand même de proposer une 50aine de projets. Mais pas seulement des projets français, hein, des projets avec des Italiens, des Allemands, des Américains, de mobiliser toute l'énergie nécessaire, depuis le Liban parfois ou ailleurs, pour justement faire en sorte que les sites du Proche et Moyen-Orient, et aussi du Mali, de la Libye et du Yémen, puissent être également épargnés, restaurés, valorisés, conservés.
Est-ce que vos initiatives sont reprises au niveau européen ?
Alors, au niveau européen, c'est un petit peu différent. Au niveau européen, l'Union européenne n'a pas vocation à travailler sur le patrimoine ni sur la culture. Mais il y a une prise de conscience depuis l'année européenne du patrimoine qui vient de se terminer, qu'on a eu le plaisir de, je dirais, mettre en œuvre, d'aller plus loin et de faire en sorte de pouvoir aider avec une coopération, ça s'appelle coopération avec des pays tiers, de sensibiliser la Commission. Je pense que la nouvelle Commission, qui va prendre ses fonctions incessamment sous peu, va être plus sensible à cette question que ne l'était la précédente.
Nous venons d'écouter Sœur Marie Kérouse, une musique Bruno Favel que vous avez choisie. Puis-je vous demander pourquoi ?
Pour moi, cette religieuse libanaise, qui est une, je dirais, une icône, mais en même temps, ça va bien plus loin qu'une icône, permet de faire rentrer la quiétude, la paix et la douceur dans une zone ravagée maintenant par des conflits terrifiants. Et cette musique peut apaiser des souffrances, peut apaiser des moments difficiles dans la vie. Ces mélopées, syriaques, melkites, jacobites, sont très très belles et je les écoute depuis très longtemps. Je vais écouter sur Marie Kérouse d'ailleurs, au Théâtre de la Ville en 1991 ou 92, je me souviens pas. C'est une découverte pour moi à l'époque de voir cette magnifique religieuse chanter Dieu.
La question de l'exil se pose. Nous évoquions Mossoul, nous évoquons son patrimoine ravagé. Le retour éventuel des chrétiens et d'autres communautés, pouvons-nous l'espérer dans cette grande ville et dans le nord de l'Irak ? Vous êtes optimiste, vous, pour...
Oui. Moi, je pense qu'il faut être optimiste. Parce qu'autrement, on s'installe dans un exil durable. Je dois dire que ceux qui partent peuvent partir un an, deux ans, trois ans, ou définitivement, ou moins. Les Libanais, par exemple, les chrétiens du Liban sont partis et revenus. Donc l'idée de faire revenir ces populations s'inscrit dans notre démarche aussi patrimoniale. Mais pour les plus vieux, Il y en a qui ne reviendront pas, c'est évident. Moi, je pense toujours à ces personnes chrétiennes âgées qui ont dû fuir dans des conditions dantesques, Mossoul ou d'autres villes, que ce soit en Syrie, en Irak. Ils savaient très bien qu'ils ne reverraient pas leur patrie. Les plus jeunes peuvent ensuite s'intégrer différemment dans les nouveaux pays. Je pense aussi à ces colonnes de personnes qui sont parties, chrétiens ou pas d'ailleurs, peu importe, il y a 2 ans à l'été en Europe, fuyant le malheur pour essayer d'arriver dans un pays supposé de cocagne, où là aussi les idées reçues sont tombées pour eux. Donc certains sont repartis, se sont retournés dans leur pays, parce qu'ils ont vu que ce qu'ils cherchaient, ils ne le trouvaient pas en Occident.
Lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, vous m'aviez demandé d'organiser une émission justement sur cette question des exils. C'est quelque chose, je sais, qui vous tient à cœur. On parlait de votre ascendance arménienne, je crois, par votre mère. Cette quête d'identité, vous êtes sensible à cette question. Quel est le sens de garder une identité après plusieurs générations? Est-ce que, vous voyez, il y a la question de l'assimilation, la question de l'intégration qui se pose pour tout un tas de nouveaux arrivants en France. Quel est votre point de vue là-dessus?
La première génération, elle est dans l'espoir du retour, elle est dans la langue d'origine, elle est dans les traditions. La deuxième génération, elle est plus dans l'intégration. Elle se francise, je vais prendre le cas de la France, elle se francise, elle s'intègre dans la France des années 50 et 60. La troisième génération auquel j'appartiens, elle se pose des questions. D'où viennent les Arméniens? Pourquoi ont-ils fui? Et vont beaucoup plus loin dans la quête d'identité que peut-être la deuxième génération qui a connu aussi la Seconde Guerre mondiale en France. La quatrième génération et la cinquième génération, parce qu'on en est quand même à la cinquième génération pour les Arméniens, pas les Arméniens du Liban et pas les Arméniens d'Arménie ex-soviétique, mais pour les Arméniens du départ, de la diaspora, la cinquième génération, quand on ne parle plus la langue, quand on ne la comprend pas ou quand on ne pratique même plus la religion de départ, on peut penser que les traditions se sont éteintes. Ce qui peut rester, c'est peut-être une différence quand même, une différence parce qu'il y a des écoles arméniennes, il y a des écoles confessionnelles, il y a des traditions qui demeurent, qui sont très vives. Il y a aussi l'UGAP, l'Union Générale de Bienfaisance des Arméniens de France, qui permet de maintenir des traditions. Je sais que vous avez souvent invité des chercheurs arméniens, Anaïd Termination, qui est là, s'est décédé, mais eux ont gardé et sont de double culture, ont à la fois leurs origines en eux et sont, je dirais, français. Ce sont des Français d'ascendance arménienne, mais ce sont des Français.
Et vous, Bruno Favel, en tant que descendant de ces familles arméniennes arrivées au début du siècle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces chrétiens qui viennent de la plaine de Ninive, par exemple, ou de Syrie? On le sait qu'il y en a beaucoup et qui viennent s'installer en Europe, les migrants.
De garder leur identité. De devenir français, bien sûr, et de s'intégrer pour ceux qui ne le sont pas, mais de permettre à leurs enfants aussi de s'intégrer et de ne pas maintenir des traditions bridantes, leur empêchant d'accéder à la, je dirais, nouvelle ville qu'ils ont, pour leur permettre d'être des citoyens responsables là où ils sont.
Un message universel, en fait.
C'est un message universel à tout le monde. Mais de garder leur tradition orientale, c'est important. Moi, pour le moment, je ne raisonne pas tout à fait comme les Occidentaux. J'ai des comportements hérités qui ne sont pas totalement occidentaux. Je sens qu'il y a des choses orientales en moi.
Alors, il y a une question qui se pose aussi, c'est quand on vit dans un pays compliqué, c'est quand faut-il partir? Cette question que vous m'aviez posée, justement.
Il faut partir quand on sent vraiment qu'on est dans danger de mort et que les choses ne vont pas s'améliorer. Et qu'on ne peut pas rester. Alors, ça, c'est quand on a les moyens de partir, parce que d'autres n'ont pas les possibilités de partir. Personnes âgées ou personnes économiquement faibles ne peuvent pas partir. Mais autrement, ne pas hésiter à partir. Parce que de toute façon, ça ne s'améliorera pas. On savait qu'à un moment ou à un autre, Karakoche et Mossoul allaient tomber. Moi, j'étais à l'UNESCO quand Karakoche est tombé. On m'a accusé de mentir, puisque j'ai dit que Karakoche était en train de tomber. On était averti par un frère. On nous a
un frère dominicain
et on nous a dit qu'on faisait de la propagande infondée. Donc il y a les gens qui ne croient pas non plus que l'irréparable est là. Mais partir, c'est nécessaire pour se mettre à l'abri, pour permettre à sa culture de survivre aussi. de ne pas être génocidé complètement.
Et ces réflexions sur la conservation du patrimoine immatériel, donc ça concerne les manuscrits, ça concerne une mémoire orale aussi, et le ministère a des moyens d'agir
Oui, il y a des subventions qui ont été données à la bibliothèque de Charfeix au Liban. Il y a le rapport Personas qui permet justement, c'est un haut fonctionnaire qui est maintenant directeur de l'Institut National du Patrimoine, qui permet de poser des questions sur l'avenir des communautés religieuses, parce que c'est par les communautés religieuses que de toute façon vont survivre les identités et traditions culturelles. Là, je ne parle pas de laïcité, puisque de toute façon, la laïcité n'existe plus sur le culturel à ce moment-là. Et on se retrouve dans la possibilité, justement, d'aller plus loin, puisque ces rapports et aussi le travail de l'œuvre d'Orient, qui est là pour nous rappeler l'importance qu'il y a à développer ces programmes.
Et la question de l'éducation se pose-t-elle? La question de la transmission de l'amour de ce patrimoine, que je pense à ces communautés chrétiennes d'Irak, syriennes bien entendu. Bon, ils pensent pas forcément à prendre avec eux une part de ce patrimoine, mais comment leur expliquer que c'est aussi une partie prenante de leur identité?
Alors, il y a quelques programmes qui sont mis en œuvre par l'UNESCO par inspiration de programmes du Conseil de l'Europe, c'est la réconciliation par le patrimoine. C'est de permettre à des jeunes musulmans de travailler sur une église ou des jeunes chrétiens de travailler sur une mosquée détruite. Pour permettre, c'est ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie, puisque j'avais suivi dans les années 90 au Conseil de l'Europe la destruction des patrimoines de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de Serbie par les différentes communautés. C'est justement d'amener les communautés à travailler ensemble sur des projets précis. Marbenham en est un exemple. Marbenham, c'est
un
lieu de syncrétisme.
Et nous terminerons là-dessus.
Voilà. Marbenham, c'est un lieu où chrétiens, juifs et musulmans ont toujours prié ensemble ou pas, ça dépend des périodes, justement dans une identité religieuse reconnue. Et c'est un lieu justement respecté par tous, mais pas par Daesh. Daesh a détruit, puisque c'est pas une religion Daesh, c'est une éradication de l'humanité. Donc on est dans un plus qu'un totalitarisme, on est dans du nihilisme humain. Et là, on se retrouve confronté à quelque chose d'important, c'est-à-dire que toutes ces communautés œuvrent ensemble pour la paix.
Ce sanctuaire a été détruit et puis a été reconstruit.
Voilà. C'est l'image la plus importante, c'est l'image de message à délivrer à tous les fanatiques que de toute façon ils ne gagneront pas.
Favel, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin.
Merci à vous. Merci, toujours un plaisir.
Je remercie Dany Journeau, Claire Poinsignon et Alain Joubert pour la réalisation et la technique de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Bon dimanche.